fit plusieurs campagnes sur les Maroquiers de Paimpol en double qualité de mousse et d'infirmier, y gagnant l'argent nécessaire à la complétion de ses études médicales. Il n'était pas question qu'il les poursuivît jusqu'au doctorat. Le seul portrait que nous possédons de lui, dessiné par le portraitiste et peintre guingampé Théophile Salin, représente un visage d'homme d'où se dégage une extrême bonté, noyé de barbe, éclairé par un front haut et d'extraordinaires yeux clairs. Visage d'apôtre et de celte dont devait hériter Joson, son seul fils, regard couleur de la mer et du ciel qui le remplissait sur les bancs d'Islande et sur les landes de Calac où sa vocation l'appelait. Ce n'était pas un médecin d'aujourd'hui. La médecine était pour lui, dans ce pays pauvre et perdu, beaucoup plus un apostolat qu'un métier. Il l'exerçait comme tel, ne demandant jamais rien aux familles pauvres, leur apportant même sans jamais rien accepter en échange les médicaments et les remèdes simples qu'il fabriquait lui-même. Il était à lui tout seul la sécurité sociale à l'heure où elle n'existait pas. Il sauvait des vies, il mettait une nouvelle génération de Bretons au monde, parmi eux Anatole Le Braz, ce fils démon adopté par la mère, fils de l'instituteur de Saint-Servais. Ce n'était là que la tâche qu'il s'était assignée, il lui suffisait de la remplir, elle meublait pleinement sa vie. Sa bonté et sa sollicitude ne s'étendaient pas qu'à ses malades. Dans le bourg même, le travail était rare. On peut encore voir à Calac, dans la rue de l'Allée, toute une série de petites maisons basses à côté les unes aux autres. Il les avait fait bâtir une à une pour donner du travail aux quelques ouvriers du pays. Il les vendait aussitôt construites pour lui permettre de payer le travail des ouvriers qui les avaient bâties. Ce faisant, aucune pensée de spéculation de l'habité. L'âge des promoteurs et autres spéculateurs immobiliers n'était pas encore venu. Il ne s'agissait pour lui que d'aider à vivre les plus besogneux de ses concitoyens. Il y laissait souvent des plumes. Sa femme le lui reprochait amèrement, aux prises avec les soucis du ménage et l'éducation des enfants. « Quéré, ces gens-là te volent !» lui disait-elle. Mais il n'en avait cure et continuait de soigner gratuitement ses malades et de construire à ses frais tout un quartier de Calac. La grande-grand-mère, en désespoir de cause, dut se résoudre à ouvrir rue de l'église un petit commerce de draperie pour compléter les ressources du ménage. Ce commerce, qui devait passer plus tard à ma grand-mère, est toujours tenu par une de mes cousines, Yvonne Leroux-Lerorre, descendante de la seule branche de la famille qui continue d'être fixée à Calac. C'est sans doute du grand-père Quéré que je tiens le côté missionnaire de mon caractère qui semble survivre en mes fils et cet attachement aux causes désintéressées, certains diront aux chimères, dont le service coûte toujours beaucoup plus qu'il ne peut rapporter. Parmi ses descendants directs, il n'en est aucun qui ait fait fortune ou qui ait excellé en des métiers de profit. Presque tous ont choisi les métiers de service, et si l'on n'y retrouve qu'un seul prêtre, on y compte docteurs, officiers de marine, travailleurs sociaux, fonctionnaires, employés ou cadres. Les hommes y sont d'ailleurs restés rares, ce sont les femmes qui ont tenu, chefs de famille autant que de leur maison, exerçant leur rôle de mainteneur dans des circonstances matérielles parfois difficiles, et dans des veuvages prolongés. Économes, avaricieuses parfois, elles ont hérité de l'exemple et de l'esprit pratique, autant que de la longévité de la grande-grand-mère. Ma propre grand-mère vécut jusqu'à 93 ans, après un veuvage presque aussi long que celui de sa mère. Et il y avait entre elle et moi tout juste un demi-siècle. Ma grand-mère s'était mariée très jeune, à 16 ans, pimpante sous la coiffe du Trégor, aux grandes ailes de dentelle qui devaient accentuer sa petite taille. Elle épousait Adolphe Liégard, de famille guingampaise, qui allait fonder à Calac la première pharmacie. Ce fut ce dernier, imbu d'idées nouvelles et favorable à la République naissante, qui encouragea son beau-père à se présenter au Conseil général. Il était témoin de sa grande popularité dans le canton. Le grand-père Quéret se laissa faire, posa sa candidature, mais refusa de faire campagne. On raconte que le conseiller général d'alors, le général comte de la Jaille, titulaire de son siège depuis 1864, perdit un jour au cours de celle qui fut sa dernière campagne électorale son chemin aux alentours de Carnoët. Il demanda la route à un casseur de pierres, sorte de cantonnier d'alors, qui cassait des cailloux pour empirer le chemin. Il fit arrêter son coupé et se renseigna. Pour le remercier des indications qu'il lui fournit, il tendit au casseur de pierres un louis d'or. N'en croyant pas ses yeux, l'autre le rappela. « Mais vous avez dû vous tromper, monsieur. »« Non, non, je ne me suis pas trompé, » dit le conseiller général. « Mais tu voteras peut-être pour moi dimanche prochain. » Le cantonnier interdit, réfléchit un instant avant de répondre. « Alors j'aime mieux vous rendre votre louis, monsieur. » Le docteur Quéret a mis au monde toute ma famille et l'a toujours soigné. Il n'a jamais voulu prendre d'argent. « Je comprends, » lui répondit l'autre. « Tu fais fort bien. Garde ce louis. Et en voici un autre pour te récompenser de tes sentiments. » Le moins que l'on puisse dire est certes que les temps et les mœurs ont changé. La préfecture ne croyait pas au succès de ce premier candidat républicain dans une circonscription traditionnellement monarchiste. Mais le docteur Quéret fut élu au premier tour. Le préfet des Côtes-du-Nord vint rendre visite à ce bourg perdu pour fêter ce succès inattendu de la République. Il fit un grand discours, parada sur la place avec le nouvel élu, jeta des sous et des bonbons à la marmaille des indigènes qui se les disputaient. Il accomplit consciencieusement sa tâche de gouverneur de cette colonie à peine soumise, puisque moins d'un siècle la séparait encore de la perte de son autonomie, et qui parlait encore une langue barbare et incompréhensible. Grâce à l'introduction de l'école primaire obligatoire, on allait non moins consciencieusement s'efforcer d'extirper cette dernière. Le grand-père Quéret mourut peu après, en 1886. Ma mère avait 4 ans. Son fils, Joson Quéret, lui succéda. Joson avait terminé ses études de médecine et passé quelques années en Indochine au moment de sa conquête par la France. Revenu en Bretagne, il avait repris la clientèle de son père et devait devenir par la suite maire de Calac. Si mon grand-père eut la première bicyclette de Calac, l'oncle Joson, aussi progressiste que lui, eut au début du siècle la première automobile, engin haut perché et bruyant, en remplacement du char à bancs et du cheval qu'il avait utilisé jusque-là. Sa femme, la tante Caroline, se plaignait qu'elle n'y pût monter sans attraper de nombreuses puces logées dans les coussins. Elle ne sut que plus tard que Tidou, le braconnier du pays, attiré par le confort de ses banquettes, venait subrepticement y passer le reste des nuits que lui laissait l'exercice de son art. Ayant aussi hérité de la bonté de son père, l'oncle Joson, sans le dire à sa femme, le savait, mais il fermait les yeux. Le bruit qu'il faisait, lorsqu'il était appelé la nuit pour une urgence, parvenait toujours à l'oreille exercée de Tidou et lui permettait de s'évanouir honorablement dans la nuit. On a donné le nom de l'oncle Joson à la rue de la Fontaine où il vécut. La rue du docteur Quéret reste pour moi la manifestation d'un hommage commun au père et au fils. À Calac encore aujourd'hui, on se souvient de l'un et de l'autre et de leur désintéressement, en les confondant parfois tous les deux. Paragraphe 4. Le grand-père et la grand-mère Quéret, comme les familles bourgeoises de Calac, parlaient en général le français à leurs enfants. Mais ces derniers savaient tous le breton, sans l'avoir formellement appris. On ne pouvait ignorer la langue du pays. Calac au tournant du siècle par les Bretons à 90%. Quant à la campagne, elle ignorait pratiquement le français. Dans leur tournée, les deux docteurs Quéré n'utilisaient que le breton. Ma grand-mère le parlait couramment, ne fût-ce que pour les besoins de son commerce. Mon grand-père Liégard, qui venait de Guingamp, l'ignorait. Ma grand-mère lui servait d'interprète, bien qu'il eût fini par le comprendre, mais il ne fit jamais aucun effort pour aller au-delà. Adolphe Liégard était d'une famille d'entrepreneurs guingampais. C'est par les Liégard, alliés aux Lugoffic, que ma femme et moi sommes lointainement parents. Le grand-père Liégard fut orphelin de bonheur et la tâche de finir de l'élever, ainsi que son frère Auguste, devenu médecin de marine, retomba sur sa mère et surtout sur sa sœur aînée, Marie, qui, enceinte femme qu'elle était, y sacrifia sa personne, son avenir et sa vie, refusant de se marier pour être fidèle à ce qu'elle considérait comme son devoir. L'argent était rare et la tante Marie, comme l'appelait ma mère, qui était sa filleule, avait ouvert un modeste commerce de coiffes et de dentelles dans la maison familiale. On voit toujours cette dernière, rébarbative dans sa façade de granit gris, pratiquement située sur le pont qui enjambe le Trieux dans la rue des Ponts Saint-Michel. La vieille marquise de Kerouar, habitante du château des Salles, non loin de là, qui connaissait la situation de la famille et la fierté de son existence modeste et difficile, était une des clientes les plus assidues de ma grand-tante. C'est sans doute parce qu'il avait été élevé par des femmes que mon grand-père trouva tout naturel, une fois marié, de laisser de plus en plus à ma grand-mère les rênes de la maison et la responsabilité des affaires. Il a confié plus tard à ses amis que s'il avait épousé une femme si jeune, c'était afin de pouvoir la former à son gré. De fait, ma grand-mère, tant qu'il vécut, ne cessa de l'entourer des soins les plus assidus. Elle ne lui fit jamais défaut. Longtemps avant la fin de sa vie, elle avait entrepris de le raser tous les matins. Lorsque la goutte l'eut affecté, elle lui enlevait chaque soir ses chaussures et lui mettait ses pantoufles. Le temps qu'elle ne consacrait pas à la pharmacie, à l'atelier ou au commerce, elle le passait à veiller à l'approvisionnement de la cuisine et à la préparation des repas, dont la qualité devait avant tout satisfaire les goûts du gourmet de son mari. Ce dernier avait d'ailleurs de qui tenir. Son grand-père nommagé consommait allègrement son sang d'huître tous les vendredis. Encore fallait-il qu'elle vienne de la rivière de Tréguier, car il n'en voulait point d'autre. Il mangeait son poulet entier tous les dimanches, du temps où le poulet était encore un luxe, sauf le haut des cuisses qu'il n'aimait pas et qu'il laissait à sa femme. D'autres de ses descendants avaient d'ailleurs hérité de ses goûts. Parmi mes souvenirs de jeunesse, associés au passage que nous faisions à Guingamp, figurent les repas, extraordinaires en qualité comme en quantité, que nous servaient l'oncle et la tante Charles Nemagé, dont la vaste maison bourgeoise se voit encore un peu en retrait de la rue Saint-Nicolas, presque au coin de la petite place où est aujourd'hui située la poste. Il arriva souvent à ma grand-mère, lorsque le petit train à voie étroite fut inauguré entre Calac et Guingamp, de prendre le premier train du matin, le vendredi, pour aller acheter du poisson frais à Guingamp pour le repas du jour. Mon grand-père vécut donc toute sa vie, ou presque, une existence de sybarite, où la bonne chair, le bien boire, le bien manger et le bien vivre avaient une importance considérable. Cette existence le satisfaisait sans doute. Il n'éprouvait que fort rarement le désir de sortir de Calac, dont les environs lui tenaient lieu d'univers. Jeune, il s'était engagé dans l'armée de Bretagne, lorsque les Prussiens se furent emparés de Paris en 1870. Il avait ainsi participé à l'aventure du comte Conly, lorsque le gouvernement de la République naissante, qui se méfiait de cette armée de Bretons, l'avait volontairement laissé massacrer sur les plateaux du Mans. Les Russes, qui lors de la dernière guerre, l'arme au pied autour de Varsovie, laissèrent volontairement massacrer la résistance polonaise par les Allemands, ont eu chez nous des précurseurs. Mon grand-père avait été toute sa vie un homme de plein air. S'étant installé à Calac, se reposant de plus en plus sur sa femme pour la conduite de la maison et des affaires, Il était la plupart du temps, tant que sa santé le lui permit, à courir la campagne avec des amis qui partageaient ses goûts. Le notaire Le Goisiou, Bourris l'hôtelier et Prigent le marchand de vin. Fin pêcheur et fin chasseur, autant que fin gourmet, il n'était pas de garenne, de bois ou de ruisseau qu'il ne connut dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour de Calac. Il savait, dit-on, au simple goût des truites sauvages, reconnaître la rivière où ils avaient été pêchés. Il n'aurait certes pas été question qu'il mangeât poulet ou truite d'élevage industriel, sous-produits frelatés et artificiels d'aujourd'hui, qui n'ont de plus de qualité que le nom qu'ils usurpent. Cette évolution inévitable d'un monde industriel qui cherche à généraliser la consommation de tous les produits et à les mettre à la disposition de la masse n'était pas à craindre à Calac au tournant du siècle. Il y avait peu de pêcheurs et peu de chasseurs. Il y avait donc beaucoup de poissons et de gibier. Et l'on n'était pas encore obligé de repeupler artificiellement les rivières, les bois et les garennes pour mettre à la portée du grand nombre un plaisir ou un sport devenu ainsi aussi artificiel, le plein air mis à part, que celui des boîtes à sous ou des matchs à grand spectacle. Parmi mes souvenirs de jeunesse figure, juste au tournant des années 20, les parties de pêche estivales avec mon oncle le docteur Lieger, qui avait hérité de son père la passion de la pêche et de la chasse, et où il n'était pas rare de revenir avec deux ou trois douzaines de truites au bout de l'après-midi. C'est sans doute à la fois du grand-père Quéré que son apostolat conduisait à chevaucher les landes et les chemins creux, et du grand-père Lieger que sa passion de vie au grand air amenait à faire de même, que nous tenons presque tous dans notre famille l'horreur des grandes villes et le goût profond de la mer, des champs et de l'air libre. Le sybaritisme du second semble par contre un accident. L'amour de la bonne chair et de la bonne vie qui s'est généralisé en France d'une manière sans doute excessive n'était à l'époque que le privilège de quelques-uns qui en avaient le temps et les moyens. La table et les vins de mon grand-père devaient apparaître comme exceptionnels à ses contemporains. Les Liégards, disait-on couramment dans le pays, des gens qui gagnent bien, mais qui mangent tout ce qu'ils gagnent. Nombreux étaient les voisins et amis qui venaient sur le coup de 11 heures rendre à mon grand-père une visite intéressée, avec l'espoir d'être invité à partager son repas. L'un d'eux, marchand de chiens, était coutumier du fait et l'un des visiteurs les plus assidus. D'esprit caustique et sceptique, voltairien, ouvert à toutes les idées nouvelles, mon grand-père ne s'intéressait que de fort loin à la politique. Il tenait trop à la tranquillité de sa vie, à la liberté de son esprit, qu'affinait de nombreuses lectures pour s'y engager. Sans doute était-il convaincu de son inutilité. La Bretagne et les problèmes qu'elle commençait à poser à la fin d'un siècle qui avait vu la ruine de ses industries traditionnelles ne semblait guère le préoccuper. Comme son beau-père, le docteur Quéré, il vivait physiquement la Bretagne. Il en était profondément imprégné. Il ne l'avait jamais quitté assez longtemps pour qu'il pensât à son pays en termes distincts. Son frère Auguste, médecin de marine, que sa carrière suivie d'une longue maladie avait amené à se préoccuper de son pays d'origine et à réaliser son particularisme, avait, plus que mon grand-père, senti l'appel de la Bretagne. On lui doit une flore de Bretagne documentée, précise et savante, qui donne pour chaque plante non seulement le nom savant et le nom français, mais encore le nom breton, et qui reste encore l'ouvrage le plus complet qui est paru sur le sujet. Il mourut jeune en 1892 et je ne l'ai donc pas connu, mais je lui dois pour une part le sentiment de ma bretonnité. Dans les vieux papiers et livres remisés au grenier et plus ou moins jetés au rebut, je découvris un jour un début de manuscrit et des notes dont il était l'auteur. Il avait commencé à écrire une histoire de la Bretagne. Ce fut pour moi, l'ouverture d'un monde nouveau. J'avais à l'époque quitté la Bretagne et ne pouvais y revenir qu'aux vacances. Dès lors, je me mis à lire tout ce qui me tombait sous la main, et qui concernait ce pays que, pour en avoir été séparé, je sentais profondément être le mien. Je commençais ainsi à me percevoir qu'une bonne partie au moins de ce que l'on m'avait appris à l'école ou au lycée était faux et qu'il me fallait reviser profondément l'enseignement de mes maîtres. Lorsque je fis mon entrée à l'école primaire laïque de Calac, tandis que ma sœur suivait les cours de l'école des sœurs, en pleine guerre, la préoccupation principale de nos maîtres, suivant en cela en toute bonne foi et croyant faire œuvre pie, les directives et l'enseignement qu'ils avaient reçus dans leurs séminaires laïcs ou religieux, étaient avant tout de fabriquer de bons Français. Leur devoir était d'assimiler et d'intégrer une population encore assez étrangère pour parler un langage distinct et qui risquait de nourrir des sentiments de particularisme de leurs ancêtres. Il n'était pas question que l'on nous parlât d'histoire de Bretagne. L'histoire de France était la même partout. Les Sénégalais ou les Algériens n'étaient pas sur ce point mieux traités que nous. On nous parlait souvent de la guerre et des provinces perdues, et nous ne pouvions dessiner une carte de l'Alsace-Lorraine sans l'encadrer de tricolore. Ainsi se justifiait la guerre du droit, au nom de laquelle on allait faire tuer allègrement 200 000 jeunes Bretons. De cela, certes, je ne m'aperçus que bien plus tard, et lorsque je fus en mesure de me poser des questions et de juger par moi-même. Tout cela, à l'époque, me paraissait naturel. J'étais aussi insupportable à l'école que j'étais sage à la maison, image déjà de mon existence future. Alors que ma vie sentimentale, familiale et privée resta dans l'ensemble exempte d'orages autres que profondément intimes et secrets, ma vie publique et politique allait être pleine de changements, d'éclats, de tempêtes et d'aventures qui firent la désolation de certains de mes meilleurs amis qui, non bretons, ne pouvaient évidemment partager toutes mes idées ni comprendre l'inspiration de mes actes. La seule chose qui m'étonnait cependant, déjà à l'école de Calac et que je trouvais étrange, était de voir notre directeur d'école, Alexis Lemoyle, brave homme au demeurant, mais qui avait la main lourde, distribuer taloches et punitions à mes camarades du bourg ou des environs s'ils les entendaient parler breton en jouant dans la cour de récréation. Si bien que les seuls mots qu'ils pouvaient employer sans crainte étaient les jurons sonores dont nous émaillions notre vocabulaire. Bien qu'on ne m'eût jamais parlé que français à la maison, que l'on ne puisse se servir dans la cour de l'école de la langue que 80% de mes camarades parlaient dans la rue, me surprenait. Je n'en étais pas encore à me révolter de cette anomalie, et ne savais évidemment pas à l'époque qu'il s'agissait là d'une politique bien déterminée et d'instructions bien précises pour abâtardir, extirper et faire mourir le langage millénaire du pays. Pour l'unité linguistique de la France, comme disait le ministre de Monzy, ministre de l'Éducation nationale, il était impératif que la langue bretonne disparaisse. Consciencieusement, patiemment, génération après génération, nos maîtres s'y emploient. Paragraphe 5. La mort de mon grand-père en pleine guerre, plus tard la fin de la guerre et la démobilisation de mon père, allaient apporter dans notre existence de nouveaux changements. Tant que la guerre dura, ma grand-mère continua de s'occuper avec la même activité et avec la même régularité de vie de la pharmacie et de son commerce. Ma mère, pour l'aider, fut de son côté amenée à s'en occuper de plus près. Elle se complétait fort bien. Ma grand-mère avait l'esprit d'entreprise, pas celui d'administration. Ma mère avait beaucoup plus qu'elle le souci d'économie et de bonne gestion. On commença dans la maison, et malgré l'incertitude des temps, à ne plus manger tout et à y réduire le coulage et le train de vie. Durant cette période, mon père restait une figure lointaine que nous ne voyions que fort peu et pour lequel nous prions tous les soirs. Mon oncle, le docteur Liégard, par contre, faisait à Calac des apparitions plus fréquentes. Il venait y passer toutes ses permissions et, à la fin de la guerre, toutes les vacances dont il pouvait disposer. Profondément breton de sentiment, excellent bretonnant, il avait épousé une parisienne pur sang, et c'était sous son influence, après un court séjour de médecine générale à Binic, décidé à s'installer à Paris, où il allait devenir un des ophtalmologues les plus éminents et chef de clinique au 15-20. Ma tante Suzanne faisait intégralement partie de cette étrange faune parisienne d'instinct grégaire, à l'aise dans les foules, qui ne peut vivre ailleurs qu'à Paris, tout en ayant d'autres préoccupations que de s'en échapper à toutes les occasions possibles, pour retrouver dans les stations ou plages à la mode la plupart des gens qu'il côtoie tous les jours dans les salons de la capitale française. La Bretagne, son soleil tamisé, la tranquillité de Calac, ce trou perdu, ne l'attirèrent jamais. Aussi mon oncle y venait-il seul la plupart du temps pour s'y livrer en toute quiétude à la pêche en rivière qu'il aimait. Il connaissait à fond Calac et ses environs et toute la Cornouaille des monts qu'il avait parcouru seul ou avec son père, à bicyclette, en voiture, à cheval ou à pied. Sa connaissance profonde du pays, de sa langue et de ses traditions lui avait permis de rédiger une thèse de médecine inhabituelle et qui fait toujours autorité sur les saints, S-A-I-N-T-S, guérisseurs de la Basse-Bretagne. Il n'avait pas d'enfant à l'époque, sa fille unique n'étant née qu'après 18 ans de mariage. Je lui tenais un peu lieu de fils et de compagnon, le suivant dans ses promenades et ses parties de pêche, à bicyclette ou à pied. À l'automne, nous courions les sous-bois à la recherche des champignons les plus divers, dont il avait en bon fils de pharmacien une extraordinaire connaissance. Il était comme son père un excellent mycologue, et j'étais un élève patient et intéressé dans cette science. Sa fille, ma cousine Jeannine Huas, en a hérité. Elle a consacré, à un moment où les drogues ont commencé à faire leur ravage, un ouvrage savant aux champignons hallucinogènes. Ce ne fut d'ailleurs là que sa première œuvre. C'est à mon oncle Henri que je dois pour une large part la découverte de cette campagne harmonieuse, douce et sauvage à la fois, que je devais bien souvent parcourir seul par la suite, lors des vacances qui, comme mon oncle, m'y ramenaient irrésistiblement. La vallée de l'Yerre, dont les eaux murmurantes serpentent entre les collines couronnées de bois et de rochers, la rousseur des landes de Plourach, de Burtulette ou de Duotte, les rochers du Coron, le sommet des collines boisées de Saint-Servais, celle du Mont-Saint-Michel, de Beffou et de Kerenlouan, d'où l'on apercevait la flèche de l'église de Bulat, espoir des pèlerins de sa fontaine, n'eurent bientôt plus de secret pour moi. La Bretagne entrait en moi par toutes les pores de ma peau. Rennes déjà me paraissait un exil, et que dire de Paris, où j'allais bientôt me retrouver. Après avoir ramené de son passage dans l'infanterie une maladie des bronches dont il ne se remit jamais complètement, et une blessure superficielle à la tête lorsqu'une balle allemande avait transpercé de part en part le casque qu'il portait, casque qui figure toujours dans les reliques de la famille, mon père avait fini la guerre dans l'administration financière de l'armée. Démobilisé, il reprit son poste à l'enregistrement à Rennes. Il n'y resta que fort peu. Le député de Guingamp, Yves Le Trocaire, ami politique de mon oncle Quéré, nommé ministre des Travaux publics, l'appela à son cabinet à Paris pour y diriger son secrétariat particulier. À la même époque, ma grand-mère avait décidé de prendre sa retraite. Après avoir vendu la pharmacie et le fonds de commerce, elle s'était installée à Saint-Brieuc dans un appartement qu'elle avait loué rue Saint-Guillaume au-dessus de la pharmacie d'Annay. On m'avait donc confié à elle pour que je puisse commencer à Saint-Brieuc mes études secondaires. C'est ainsi que je fis ma sixième à Saint-Charles et ma première communion. Je n'aimais guère la ville et les horizons de Saint-Brieuc me parurent vite fort limités, bien que ma grand-mère eût loué une cabine sur la plage de Saint-Laurent. Je m'en fus passé pour la première fois de longues vacances de Pâques chez ma grand-mère paternelle à Évran. Ce fut pour moi une nouvelle révélation. À Calac, certes, la campagne n'était pas loin, mais au Babreuil, nom de la vieille métairie familiale, On était en plein champ. On s'endormait dans le profond silence de la campagne que troublait seulement le crissement des criquets. Le ciel étoilé occupait toute la largeur de l'horizon et la terre sentait bon l'herbe et les feuilles. On se réveillait au milieu de champs couverts de rosée, au son des bruits familiers de la basse-cour, de l'étable ou de l'écurie. L'air y était frais, léger, virginal. Tout le jour, on vagabondait par les halliers et les chemins creux. Vers la fin de l'après-midi, on accompagnait les vaches à la pâture. Nous faisions de grands feux sur la lande lorsque le soir tombait. On y cuisait des pommes de terre et des pommes dans la cendre. Je découvrais vraiment la vie des champs, ses travaux et ses joies, le contact direct, total et profond avec la nature. La ferme du Babreil groupait des deux côtés d'une vaste cour où se dressait le puits de granit et où subsistait une mare d'eau stagnante où le bétail s'abreuvait. Des bâtiments relativement imposants qui ne sont pas sensiblement différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 60 ans. Le corps de logis principal, orné d'une ogive de granit sculpté, qui encadre la porte érigée à la fin du XVIIe siècle, subsiste toujours. Des additions plus récentes ont été faites de chaque côté. Les étables, les écuries, les hangars et les sous à cochons occupaient un côté de la cour. De l'autre côté se trouvait le four. Lorsque nous arrivions, on venait en général nous chercher en char à banc, soit à la gare de Dinan, soit à celle de Saint-Dominique, où s'arrêtait le petit tortillard disparu depuis, qui reliait Rennes à Dinan. Le cheval était habitué à faire le trajet, surtout celui de Dinan, où ma grand-mère Fouéré et mon oncle Constant, frère de mon père, se rendaient habituellement le jeudi, jour de marché. Il aurait fait le trajet les yeux fermés, et il s'arrêtait de lui-même aux étapes habituelles sur le chemin.